C'est génial de pouvoir vivre l'Église avec vous. J'aime la famille que nous sommes. C'est ce qu'on a envie tous de vivre en premier, c'est aimer Dieu, c'est adorer Dieu, c'est être des passionnés de Dieu. Et ça, c'est notre axe vertical. On aime Dieu, il nous aime, on lui parle, il nous parle, on le sert, il agit sur terre. Et c'est ce qu'on désire aussi pleinement, c'est s'aimer les uns les autres, c'est vivre des temps, vivre la famille, des temps de réjouissance, comme on a pu le faire maintenant, on se réjouit avec des familles, on bénit des enfants. À d'autres moments, on pleure avec ceux qui pleurent, on soutient ceux qui sont dans le deuil, on soutient ou on prie pour ceux qui traversent une épreuve, la maladie. Et c'est l'axe plutôt horizontal entre nous, vraiment envers ceux que Dieu veut toucher aussi. Et c'est vraiment ça le sens de la croix, c'est le sens de l'Église, où vraiment Dieu vient manifester sa puissance et où on la répand autour de nous. On veut vraiment baser notre vie sur la puissance de la croix. Cette croix qui est fondée sur le sacrifice de Jésus, qui est descendue du ciel sur la terre, vraiment cet axe vertical, mais aussi pour répandre sa vie, répandre son amour. Et qu'on puisse être vraiment et vivre cette famille et communiquer cet amour plus loin, autour de nous, c'est cet axe horizontal. Et c'est ça la puissance de l'amour. Et c'est le titre de mon message ce matin, la puissance de l'amour. Et avant même de commencer, j'aimerais vite donner la parole à Samuel, qui veut nous dire juste deux mots. Je ne sais pas où il est, voilà, viens seulement. Il va nous donner un court témoignage et puis ensuite on va poursuivre.
Bonjour à tous. Le Seigneur ne vous a pas raté, vous êtes vraiment magnifiques. Alors ça s'est passé il y a deux semaines en venant au culte. Je prenais le train pour venir et puis sur le sous-bois de la gare de Neuchâtel, il y avait un SDF qui était en train de demander des pièces pour se nourrir. Je monte l'escalator, puis j'ai une parole qui me disait « offre-lui de l'eau ». Donc je suis allé acheter de l'eau. Et quand je suis redescendu, je lui ai offert de l'eau. Et après, en revenant ici, 30 minutes après, il y a un porte-monnaie qui vient vers moi et il me propose « est-ce que tu veux une bouteille d'eau ?» Donc pour moi, ce n'était pas un hasard, c'était une réponse du Seigneur sur un geste que j'ai fait à un monsieur qui avait besoin de boire quelque chose.
Et je trouvais beau ce témoignage parce que quand on se laisse utiliser, quand on s'aime, quand on bénit, c'est une petite chose. Mais qu'il donne sa bouteille d'eau, il arrive ici, il la reçoit, Dieu est bon. Et pour moi, c'est une image de ce que Dieu veut faire bien au-delà, avec bien d'autres choses dans notre cœur. On donne, on aime, l'amour coule au travers de nous, que ce soit par des mots, par un service, par un don, par une prière. Dieu veut nous bénir aussi en retour. Et c'est fort parce que pour moi, c'était comme un signe de ce que Dieu désire qu'on vive. Et Sam m'a partagé ce témoignage juste quelques minutes avant notre premier culte de l'année qu'on a fait il y a deux semaines, qui est un culte de louange. Et précisément, la pensée qui brûlait dans mon cœur et que j'ai pu partager à un moment donné, c'était justement sur l'amour. Une pensée que j'avais hésité à partager il y a deux semaines, parce que je me suis dit, mais je vais la garder pour ce message aujourd'hui. Et c'est parce que je suis convaincu que ce n'est pas juste l'encouragement d'un jour, l'encouragement d'un culte, mais elle a une portée pour nous cette année. Et pour la saison que Dieu désire nous faire vivre en tant qu'Église. Et je l'ai partagé dimanche passé et je pensais ce matin reprendre certains éléments, aller plus loin, la développer, ce que je vais faire aussi entre autres. Mais j'ai ressenti de ne pas juste paraphraser cette pensée, de la commenter, mais j'ai vraiment senti dans l'esprit de la redonner et de la redire. Or j'ai bataillé dans mes pensées, j'ai dit mais je ne peux quand même pas décemment redonner une deuxième fois la même pensée. Je n'ai pas envie de réchauffer une deuxième fois le plat cuisiné, même si des fois les spaghettis bolognaises, ils sont bons hein, quand on les réchauffe, ils sont des fois même meilleurs que la première fois. J'espère que c'est le cas aussi pour cette pensée. Mais je sentais vraiment que le Saint-Esprit me poussait vraiment à vous le redire. Et moi, je suis convaincu que si Dieu veut nous redire ces mêmes mots, qu'il insiste, c'est que c'est important. En fait, cette pensée, c'est un appel. C'est un appel. Et d'ailleurs, en cherchant dans la Bible, j'ai vu que lorsque Dieu appelle deux fois, c'est pas rien. C'est important. Mais surtout, c'est pas n'importe quand et pour n'importe qui. Et il y a un impact fort. Lorsque Dieu arrête Abraham juste avant le sacrifice d'Isaac, il lui dit deux fois, Abraham, Abraham. Puis ensuite, l'ange de l'Éternel lui apparaît. Et là, il lui balance une bénédiction, une parole vraiment où Dieu va le bénir, sa postérité, ça sera comme les étoiles du ciel. C'est vraiment une alliance incroyable. Plus tard, quand Dieu il appelle Moïse, il l'appelle par deux fois dans le buisson ardent. Il lui dit « Moïse, Moïse !» Et c'est le début d'une amitié entre Moïse et Dieu et aussi un appel de fou. Et quand Dieu appelle Samuel à un ministère prophétique, Samuel, il est là dans le temple et il entend une voix. Dieu l'appelle deux fois. Samuel, Samuel. Et quand Dieu appelle l'apôtre Paul sur le chemin de Damas, il s'appelait encore Saul, il l'appelle deux fois Saul, Saul, deux fois. Pourquoi ? Parce que la répétition, ça montre l'urgence et l'attention particulière que Dieu donne à la personne qui l'interpelle. Il y a quelque chose qui se passe. Quand Dieu appelle, c'est quand il veut faire bouger les choses sur la terre et il appelle deux fois. Quand Jésus veut dire quelque chose d'important, il disait deux fois « Amen, amen, je vous le dis ». C'est aussi traduit en vérité, je vous le dis ». Ce n'est pas qu'il bégaye, ce n'est pas qu'il se répète, c'est qu'il souligne l'importance de la révélation, de la parabole et de la parole qu'il va donner. Alors que ce soit pour Abraham, que ce soit pour Moïse, pour Samuel, pour Paul, pour Jésus, quand Dieu se répète, c'est qu'il veut se faire entendre et faire bouger les choses sur la terre. C'est qu'il veut se faire entendre. Je dis « Ok Seigneur, alors je vais redonner cette parole une deuxième fois. » Mais avant de vous la donner, j'aimerais prier. Et Seigneur, moi je te prie ce matin de nous saisir par qui tu es, par ton amour et ta présence. Merci parce que tu es là. Tu t'es manifesté, Seigneur, pendant ce temps de chant, ce temps de louange. Seigneur, tu répands et tu vas augmenter encore ta présence. Je te prie de saturer ces lieux de qui tu es, de ton amour et de ta présence. Et je te prie, Seigneur, de nous toucher, de nous bouleverser par ton amour. Seigneur, pour qu'on puisse vraiment saisir ce que tu veux nous dire, Seigneur, pour nos vies, pour cette année. Seigneur, qu'on puisse saisir comment tu veux transformer nos vies. Quel impact tu veux aussi avoir, Seigneur, dans cette région. Et je te prie de venir par ton esprit, Seigneur, au-delà des mots, au-delà, Seigneur, de ce que je vais dire, mais que tu viennes saisir nos cœurs. Seigneur, viens puissamment, je veux libérer ta présence et ton amour dans ces lieux. Et je veux prendre autorité aussi au nom de Jésus contre tout esprit de rationalisme et d'incrédulité au nom de Jésus. Et je libère la vie. Alléluia. Amen. Alors, je vais simplement vous partager cette pensée encore une fois, simplement telle que je l'ai reçue. Et prenez... Gardez ce qui est bon, simplement. Fermez les yeux ou ayez les yeux ouverts, simplement qu'on puisse simplement recevoir ces mots une deuxième fois. Et en ce début d'année, j'appelle les cœurs. Et quand je dis cœur, c'est plus qu'un mot. C'est son sens profond. J'appelle des hommes et des femmes, des jeunes et moins jeunes, à venir de tout leur cœur, c'est-à-dire de tout leur être, pour venir dans ma présence, mais aussi pour me suivre. Je ne cherche pas juste des admirateurs, mais des disciples qui me suivent pleinement, c'est-à-dire entièrement. Et ce verset résonne dans le ciel pour vous pour cette année. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je désire un cœur à cœur entier. Et je déverse mon cœur entier dans des cœurs entiers. Un cœur qui m'aime et qui me suit un peu est un cœur qui reçoit un peu de ce que je désire transmettre et faire couler dans sa vie. Le cœur entier est un cœur qui s'aligne sous mon onction, qui coule, comme un verre se met entièrement sous le robinet. Non pas que je déverse mon cœur au mérite d'un cœur entier, mais un cœur entier, une vie consacrée, un cœur sans partage, un amour total est un cœur qui s'ouvre comme un vase et qui se place juste où coule mon onction. Et en ce début d'année, cette année, il y a un appel à aimer, plus encore qu'à admirer et apprécier ma présence, mais à m'aimer totalement, entièrement. Je ne cherche pas des chrétiens, mais des disciples. Et l'appel ce matin, c'est toi, viens et suis-moi. Et alors que ton amour grandit, il va t'amener à être transformé. Et en étant transformé, il va couler sur ce deuxième commandement, qui est juste la suite du premier. Tu vas aimer les autres pleinement. Non seulement comme je les aime, mais tu vas les aimer comme tu t'aimes toi-même. Parce qu'en réalisant, parce qu'en aimant ma présence et en étant transformé, tu vas réaliser combien je t'aime, même imparfait. Et tu vas t'aimer imparfait, mais en marchant sur ce chemin de transformation. Et du coup, tu vas aimer les autres aussi imparfaits qui ont tellement besoin de mon amour. Alors retiens ce matin qu'en m'aimant de tout ton être va être touché et impacté par mon amour. Et tu vas être touché par tout mon amour. un amour qui va couler et déborder sur les autres. Amen. Et je crois vraiment que cette pensée que Dieu nous redonne, c'est un appel à se donner entièrement pour vivre l'entier que Dieu a prévu pour nos vies. Et personnellement, moi, j'ai envie de dire, si Dieu insiste une deuxième fois avec cette pensée, c'est qu'il a une intention. Et personnellement, j'ai vraiment envie d'aligner mon cœur sous le robinet de son onction. Et si mon cœur est entier, je vais être entièrement là où il déverse sa vie, là où il déverse son amour. Et de vivre à fond pour lui, moi j'ai envie de l'aimer totalement, parce qu'il m'a aimé totalement. Et j'ai envie d'être un disciple, comme quand Jésus appelait les disciples, ils laissent tout et ils le suivent à 100%. Aimer Dieu. Et c'est fou comme on le voit dans Matthieu 22, quand il est demandé, à un moment donné, il disait, hey, « Jésus, qu'est-ce qui est le plus important au monde ?» Il aurait pu dire, ben, « Allez prêcher la bonne nouvelle, allez guérir les malades, allez libérer les personnes oppressées, ou je ne sais pas. » Ce n'est pas ça qu'il dit, même si on y reviendra, puis c'est aussi le fruit de cet amour aussi. Mais ce qui vient en premier, ce qui est le plus important, c'est ce verset qu'on a entendu avant, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement de Matthieu 22. Et si Jésus met l'amour en avant au-dessus de tout le reste, c'est parce que c'est le but même de notre existence. Tout le message de Dieu est basé sur l'amour. Comme j'en ai déjà parlé d'ailleurs plusieurs fois, si Dieu a créé l'être humain au départ, c'est par amour, c'est pour avoir des amis, c'est pour avoir une relation de cœur à cœur. Et c'est précisément ça que l'ennemi va attaquer dès le départ avec la chute et Adam et Ève pour qu'ils aient plus de relations, plus cette communication, pour couper ça. Et en lisant ensuite l'Ancien Testament, on voit que pendant des siècles, Dieu a tout fait pour que l'amitié soit restaurée avec l'être humain et le peuple qu'il a choisi. Sans cesse, il a appelé et incité le peuple à revenir à lui. Il a suscité des prophètes, il a suscité des hommes, des femmes de Dieu. Et le peuple répondait un moment, et puis après il s'éloignait de nouveau. Mais son amour a été plus fort que les détours du peuple ou bien des gens qui se détournaient. La loi et les sacrifices, notamment aussi avec le sacrifice de ses agneaux, ça a préparé cet acte d'amour suprême du Père qui a offert son Fils comme un agneau parfait, où il n'y a plus besoin finalement de faire tous ces sacrifices, parce qu'il l'a été lui-même. Et son amour a été total, et il est total pour chaque être humain. Comme il a été depuis toujours, son amour est tel qu'il laisse libre, libre d'aimer en retour, de se laisser aimer, et libre de suivre Dieu ou non. Un amour qui est libre d'être partagé aussi ou non. Et cet amour, c'est une puissance parce qu'il est ce que l'imitateur n'arrive pas à imiter. L'ennemi ne peut pas imiter l'amour. Il arrive à imiter ce qui est apparent, ce qui est visible. Il arrive aussi à imiter la puissance qui est naturelle, mais même la puissance surnaturelle, il peut l'imiter. L'amour, il ne peut pas. Parce que la puissance et l'amour, c'est un trésor divin qu'on ne trouve qu'en Dieu. C'est l'opposé de l'égoïsme, de la gloire personnelle, qui sont les racines même de l'imitateur. D'ailleurs, c'est une mentalité qu'il distille encore et encore dans la mentalité puis la culture du monde. Mais l'amour véritable, il aime, il se donne et il se reçoit. Et il reçoit. Et Dieu a donné sa vie par amour et il cherche des hommes et des femmes qui partagent cet amour, cette relation d'amour avec lui. C'est-à-dire qu'ils réalisent, qu'ils croient en cet amour, qu'ils disent « Ok, je décide de croire également ». Puis qui répondent, puis qui se donnent par amour. Ça, c'est une vraie relation d'amour, d'amitié. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta pensée. Et aimer Dieu de tout son cœur, de son âme, de sa pensée, on dit, mais c'est quoi, c'est un peu pareil, tout ça. C'est quoi la différence entre cœur, âme, pensée? Mais c'est mon tout, c'est moi, c'est mon être intérieur, c'est qui je suis, c'est toute ma personne. De tout son cœur, le cœur, c'est là où se tourne notre amour, notre adoration, c'est ce qui compte le plus. C'est notre consécration, jusqu'à quel point on est prêt à le suivre, jusqu'où? De tout mon cœur, c'est la part de notre affection pour Dieu, son royaume, sa présence, chérir sa présence, les temps d'intimité, ces temps de cœur à cœur avec Dieu. Puis notre âme, mais c'est qui on est, c'est aimer le Seigneur toute son âme, c'est l'aimer qui on est, mon être, mon énergie, ma passion. Et du coup, ça va se voir dans mon agenda, dans mes relations, là où je mets mes priorités. Et si vous voulez une petite punchline qui pique ce matin, mon emploi du temps, mes finances, mes amitiés, là où je mets mon énergie, c'est l'aspect visible qui montre ce qu'il y a dans mon cœur. Tout simplement. Et l'aimer de toutes mes pensées, c'est la façon de voir, de comprendre mes avis, mes valeurs, et finalement ça va influer sur mon style de vie, la façon dont je vis. Et C.S. Lewis a dit la chose suivante, aimer Dieu, non, c'était celle d'avant, aimer Dieu, c'est ne rien préférer à lui. C'est le désirer plus que toutes les bénédictions qu'il peut offrir. Aimer Dieu, c'est ne rien préférer à lui, mais c'est le désirer plus que tout ce qu'il peut nous donner. Aimer Dieu tout son cœur, toute son âme, de toute sa pensée, c'est aimer Dieu avant tout, c'est aimer Dieu plus que tout, puis c'est aimer Dieu par notre tout, pour le dire comme ça, c'est-à-dire entièrement. C'est extrême, hein, quelque part. Mais rappelez-vous que c'est la réponse que donne Jésus à celui qui demande qu'est-ce qui est le plus important. C'est ça. Hein. Ce n'est pas l'évangile de David Guya, c'est la réponse de Jésus qui est écrite dans la Bible. Et je suis convaincu que Dieu désire toujours plus nous faire découvrir combien il nous aime. Et notre réponse à cet amour, c'est de l'aimer toujours plus. Et j'ai beaucoup aimé cette femme de réveil que j'ai déjà mentionnée plusieurs fois, Ruth Efflin, que j'ai eu l'occasion de côtoyer, mais qui a écrit dans son livre « La gloire ». Elle a mis « Dans le cantique des cantiques, la Sulamite commence par employer le mot roi, puis berger, puis celui qui aime son âme et enfin bien-aimé. Mettez-vous à connaître Dieu dans chacune de ses dimensions. » Et moi, ça me parle, parce que je réalise que Dieu désire que je le connaisse comme ce Dieu tout-puissant, comme mon Seigneur, comme mon roi, comme mon sauveur, comme mon papa. Mais comme le démontre aussi ce livre des cantiques qui parle à plusieurs niveaux, notamment pour les couples, au propre figuré, mais aussi pour la relation entre l'époux et l'épouse, c'est-à-dire entre Jésus et l'Église. Et vu que nous sommes l'Église, la relation qu'il veut entre lui et nous, entre lui et toi, eh bien, Dieu veut non seulement nous faire réaliser son amour pour lui, mais développer cette relation où il devient notre bien-aimé, notre amoureux aussi. Et quand on est amoureux, il n'y a pas trop besoin de discipline pour penser à l'autre ou un rappel dans l'agenda. L'autre est dans nos pensées plus que de raison. Et Dieu cherche cette relation de bien-aimé avec toi. Il cherche cette relation de bien-aimé avec moi. Et si ce n'est plus trop le cas, il veut simplement la raviver, ranimer ses braises, cette passion, ce feu. C'est comme ça qu'on devient passionné, parce qu'il y a un amour, une passion comme fondement. Et le Cantique des Cantiques 8 nous dit « Place-moi comme un sceau sur ton cœur, place un sceau sur ton bras, car l'amour est plus fort que les chaînes de la mort et de la tombe, et ses ardeurs sont des ardeurs de feu. Le feu de l'amour ne s'arrête devant rien. Les grandes eaux ne pourront pas éteindre l'amour, ni les fleuves le submerger. L'amour est tellement fort que Dieu a pour nous, et il désire qu'il y ait cet amour ravageur, une ardeur aussi pour lui. D'ailleurs, deux fois dans le Cantique des Cantiques, il est parlé de la fiancée qu'elle est malade d'amour. C'est une passion intense pour l'époux. Elle est malade d'amour. Tellement c'est fort, tellement ça la ronge, cette passion et cet amour pour Dieu. Et c'est comme ça que la Bible nous parle de l'amour de Dieu, que Dieu désire envers nous et nous envers lui. C'est pas très liturgique, hein. C'est intense, c'est intense. C'est comme ce psaume 63 qui dit « Ô Dieu, tu es mon Dieu, c'est toi que je recherche !» Comme on attend l'aurore, quand il a fait nuit tellement longtemps, on attend l'aurore. Mon âme a soif de toi, mon être soupire et languit après toi, comme une terre aride, épuisée sans eau, qui attend qu'une chose, c'est qu'elle soit arrosée. Et le verset 3 « Où je voudrais te voir dans ton sanctuaire ?» afin que m'apparaisse ta puissance et ta gloire. Car ton amour fidèle vaut mieux que la vie. Car ton amour fidèle vaut mieux que la vie. Aussi mes lèvres chantent sans cesse tes louanges. Alléluia. Et c'est ce qu'on a pu vivre aussi avant dans ce temps de louange, où on a voulu l'aimer, le louer, et même au-delà des mots affichés au bimeur. Comme j'aime le dire, on n'est pas ici pour faire du karaoké, on est là pour louer et adorer Dieu. Et à un moment donné, Dieu, ce qu'il désire entendre, c'est tes mots d'amour qu'il y a dans ton cœur. C'est pour ça que des fois, on laisse la musique pour que tu puisses toi l'aimer et toi lui dire qu'il y a dans ton cœur tes propres mots. Et réaliser l'amour de Dieu, aimer Dieu en retour, aimer son prochain, on y viendra après, comme soi-même. Et comme la pensée le disait au départ, si on réalise que Dieu nous aime, même si on est imparfait, on va s'aimer soi-même aussi, même imparfait. Et on va pouvoir aimer l'autre, même s'il est imparfait. Si on a l'impression que Dieu va nous aimer seulement quand on est parfait, quand on a tout bien suivi, on aura de la peine à nous aimer, on ne va pas s'aimer soi-même parce qu'on ne va jamais être parfait, et puis les autres vont nous irriter parce qu'ils ne sont pas parfaits non plus. Mais si on réalise que Dieu nous aime, même si on est imparfait, après il y a un processus de transformation, mais c'est un chemin, Jésus est le chemin. On va s'aimer soi-même, même imparfait, et on va faire grâce aux autres, même s'ils sont imparfaits. Et ça commence par réaliser comment Dieu nous aime, s'aimer soi-même. Et j'ai réalisé, c'était comme une révélation pour moi, comment réaliser si oui ou non on est aimé inconditionnellement par Dieu. Parce qu'on le sait théoriquement, oui, Dieu m'aime inconditionnellement, je le sais. Mais une façon de se poser la question et de réaliser si c'est vraiment en moi, c'est de se poser la question suivante. Est-ce que je n'ai pas des fois l'impression que Dieu aime d'autres plus que moi ? Est-ce que je n'ai pas des fois l'impression que Dieu aime les autres, d'autres gens plus que moi, dans le sens qu'ils sont plus bénis, que Dieu les aime plus ? À l'inverse, en voyant certaines personnes, leur attitude, on pourrait avoir l'impression, des fois, que certains ils sont un peu moins bien que nous. Du coup, est-ce que Dieu ne les aimerait pas un peu moins que nous, ces gens ? Même si tu sais déjà que tu es son enfant, son, sa chérie du Seigneur, est-ce que tu réalises que Dieu les aime tout autant que moi, que toi ? Il n'aime pas moins ton ennemi que toi. Il l'aime pas moins que toi, hein. Et là où je veux en venir, c'est que même si on sait que Dieu nous aime inconditionnellement, avec ça quelque part, on pourrait penser que Dieu aime des gens plus que nous, et puis qu'il aime des gens peut-être quand même un petit peu moins que nous, son chouchou. Et ça veut dire qu'on est dans un schéma d'amour au mérite, et non d'un amour sans condition. Et Dieu veut avoir, il veut nous libérer une révélation de son amour qui est telle pour ma vie, moi qui suis imparfait, mais la même chose pour l'autre. Ça nous permet peut-être à nous, des fois, de nous croire inférieurs à d'autres ou supérieurs, mais il veut qu'on sente qu'on est simplement aimé tel que nous sommes. Et c'est cet amour qui est une puissance de transformation. Dieu t'aime autant que la personne qui est assise à côté de toi ce matin, ou derrière, ou devant. Et c'est David Terry qui met dans son livre « Montre-nous le Père », qu'on a lu dans nos groupes ressources, puis qu'on se réjouit d'accueillir ici, qui a dit la chose suivante. « Lorsque nous avons une révélation de l'amour de Dieu, nous n'avons plus besoin d'essayer d'impressionner les autres ou de nous élever au-dessus d'eux, car nous savons que Dieu nous aime infiniment. » On n'a rien à prouver. Tu n'as pas besoin de montrer quoi que ce soit, qui tu es, tes dons spirituels, rien. Tu peux juste être dans la présence de Dieu. T'es aimé, il aime les autres, alléluia, tout va bien. Réaliser l'amour total pour Dieu, pour nous, sans condition, ça nous permet d'être qui on est, de devenir qui on est appelé à être, puis d'aimer l'autre autant que nous, autant que Dieu les aime. Et vous savez, l'exemple par excellence d'aimer l'autre, on a vécu il n'y a pas longtemps tous ensemble, pour ceux qui étaient là, c'est préparer une fondue que tu sais tellement bien faire, et puis après que le gong sonne dans notre speed fondue de notre fête de Noël, tu dois décaler quelques rangs, puis c'est l'autre qui la mange. Ça, c'est aimer l'autre plus que toi. On peut applaudir... C'était une bonne idée, en tout cas, cette speed fondue. On a bien ri. Moi, j'ai mangé la fondue. J'étais tellement content de la repréparer. Celle d'à côté était aussi super bonne. Je ne sais pas si Mathieu est là. Elle était bonne aussi, ta fondue. Puis après, j'ai été à une autre qui était le goût de brûler. Ils avaient un peu oublié. Ce n'était pas le feu de l'enfer, mais c'était un petit goût là, qui était là. Ça, c'est l'amour de son prochain. Hein. C'est quand tu laisses ta meilleure fondue pour l'autre. En tout cas, ça nous a permis de connaître plein, de faire d'autres connaissances. Mais vous connaissez le verset biblique qui dit « L'amour bannit la crainte ». L'amour bannit la crainte. Et souvent, à juste titre, on pense que l'amour de Dieu sur nos vies va faire disparaître la crainte qui peut nous habiter. Alors, c'est tellement vrai, mais j'aime bien cette traduction de Parole vivante qui dit « Dans un véritable amour, il n'y a pas de place pour la crainte. » Dans un véritable amour, il n'y a pas de place pour la crainte. Lorsqu'on est rempli, il n'y a plus de place pour que la crainte vienne se loger. Si on est rempli à 80-90%, il y a de la place vide où la peur, elle peut venir s'installer, faire son nid. Mais si ton être est rempli à 98% par l'amour de Dieu, il y a une toute petite place pour la crainte qui peut venir. Et il y a une petite place pour que la crainte fasse son nid. Il y a bien des années, juste après notre école biblique, on a emménagé dans un magnifique appartement sur la colline du Mail, au chemin de Bel Air, dans une vieille maison bien rénovée, avec un appartement, avec un jardin, vue sur la ville, vue sur le lac. C'était magnifique, avec du cachet. Vous savez, ces planchers qui craquent quand on marche. Certains n'aiment pas, mais nous, on trouvait vraiment super. C'était des doubles fenêtres. Ce n'est pas des doubles vitrages. Vous avez deux fenêtres à simple vitrage. Enfin, c'est vraiment, c'était, elle est beaucoup de cachets, magnifique. Le 99% de la maison était rempli par deux appartements, cave, grenier, il y avait une terrasse, des murs bien épais, mais de la folie, la largeur de ces murs, quoi, quand j'y repense. Mais il y avait une toute petite part de vide. C'était l'espace entre le plafond et le plancher des autres, mais aussi l'espace entre les boiseries et les murs. Parce que c'est une maison, il y avait beaucoup de boiseries, souvent jusqu'à cette hauteur-là. Puis à chaque fenêtre ou pas de porte, il y a chaque fois des boiseries. Alors là, elles étaient bien peintes en blanc, c'était pas trop vieux et oppressant, mais ça donnait bien. Par contre, il y avait un petit espace, et il y a une petite souris qui se logeait par là. Et puis on l'entendait des fois gratter, marcher. Elle marchait comme ça, on l'entendait. Tout simplement parce qu'il suffisait d'un tout petit espace entre les boiseries et le mur. Or, c'est non seulement ce n'est pas très reposant, mais ça peut faire des dégâts à un moment donné. Vous êtes allongé sur votre canapé après une longue journée, puis vous entendez cric, 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 cric. Puis après ça court partout, puis après vous réalisez, vous essayez de taper contre la boiserie. Voilà, ça marche un moment, puis après elle revient. Ou enfin vous couchez le soir, vous êtes fatigué, puis vous entendez. Non. Tu peux tout essayer pour chasser cette souris. Ça peut marcher un moment, mais tant qu'il y a du vide, elle va revenir. Ou d'autres vont revenir. C'est pareil dans nos cœurs. Si l'amour de Dieu ne remplit pas la totalité de nos cœurs, de notre cœur, de nos pensées, il y a toujours une petite place pour que la peur vienne s'installer, y faire son nid. Comme dans cet appartement qui était idéal, magnifique, on s'est énormément plu globalement là-bas, mais de même, notre vie peut être belle, on peut être ancré en Dieu, avoir une belle relation avec Dieu, le connaître, lui parler, l'entendre, être fondé dans la parole, la connaître par cœur. Si l'amour de Dieu ne remplit pas notre cœur pleinement, il va y avoir une petite place pour la peur. D'ailleurs, il y a quelques mois, j'ai fait un message qui s'intitulait « Au-delà des peurs ». Je vais plus loin au niveau de la peur, vous pouvez le réécouter sur notre site. Mais vraiment, on peut vivre une belle relation avec Dieu, être à l'aise avec ce que Dieu nous appelle à vivre, à servir, à faire. Si l'amour de Dieu ne remplit pas tout notre être, ce petit espace va vite être habité par la peur, par la crainte qui va se faire entendre, comme la petite souris qui peut même des fois nous ronger ou te ronger finalement et faire des dégâts. Et moi j'ai souvent compris ce verset, l'amour bannit la crainte, l'amour chasse la peur, par rapport à soi, le fait d'avoir des peurs, aussi le fait de se sentir aimé de Dieu ou pas vraiment. C'est bien, c'est juste, mais je réalise avec l'intention aussi de Dieu et ce message qui me touche moi-même en premier, c'est que son amour, il n'est pas juste orienté vers soi, mais s'il est total, s'il nous remplit vraiment, c'est qu'il déborde et puis qu'il va toucher au-delà et qu'on va communiquer cet amour autour de nous. Mais souvent, ce qui nous retient de transmettre son amour, ce n'est pas la petite souris, mais c'est la peur, justement. La peur qu'il y a en nous. Pour être dans le vif du sujet, peut-être qu'on a peut-être peur d'inviter une personne à notre parcours alpha qui va commencer. Qu'est-ce qu'il pourrait penser ? Cette petite peur qu'elle a, c'est de se demander qu'est-ce que la personne elle va penser, comment elle va trouver ça, qu'est-ce qu'elle va penser de moi après. Et ça, c'est les petites pensées, c'est ce petit espace, puis la souris, elle y va, puis ça tourne tout, tout, tout. Des fois, c'est comme une petite roue, hein. S'il y a trop d'espace, il y a carrément le moulin du hamster, là. Et en fait, on a peur que la personne nous voit ou nous perçoive autrement après. Tu dis, mais si je prie, je propose de prier pour la guérison de quelqu'un, si ça marche ou pas, puis qu'est-ce qu'il va penser de moi après, puis tac, la petite souris, la petite peur, elle commence à s'immiscer. Si je réalise vraiment ça dans ma propre vie, c'est que si j'ai peur d'amener l'évangile d'amour aux autres, c'est que l'amour de Dieu, il ne remplit pas encore tout mon être assez. Il y a de la place pour ses pensées, il y a de la place pour la peur du regard de l'autre, il y a de la place pour la peur d'être rejeté. Si je suis pleinement aimé de Dieu, que j'ai réalisé qu'il est pour moi ce papa d'amour, qu'il veut le meilleur pour moi, si j'ai réalisé qui je suis pour lui et en lui, son enfant bien-aimé, il n'y a pas de place pour la peur. C'est un amour qui est total, qui libère. Cet amour de Dieu est total. Et je vais réaliser que cet amour que Dieu a pour moi, il l'a aussi pour l'autre. Et il veut aussi que je puisse aimer l'autre. Du coup, si cet amour en moi est total, il n'y a pas de place pour que je m'inquiète de ce que l'autre va penser. C'est comme si après ce culte, tu vas te promener là au bord du lac, que tu vas chercher ta voiture, puis tu vois que ton enfant tombe à l'eau, il commence à se noyer. Tu ne vas pas réfléchir, tu sautes à l'eau pour le sauver. Mon enfant, mon amour pour mon enfant, il va être plus grand que la peur d'aller dans l'eau froide. Enfin, il n'y a peut-être pas tout le monde qui a peur là, mais enfin, il va être plus grand que la peur d'aller dans l'eau froide, d'y aller tout habillé, de garder mes chaussures, qu'est-ce que les autres vont penser. Tu ne réfléchis pas. Par amour, tu fonces, tu sautes. Mon amour est plus grand que ça. Je vais mouiller. Je vais me mouiller. Si la peur de ce que va penser mon voisin, si la peur de ce que va penser tel membre de ma famille, si je suis inquiet de ce que mon collègue pourrait penser de moi, si je lui transmets la vie ou que je parle du trésor éternel, de ce qu'il va pouvoir penser de moi, c'est que l'amour de Dieu n'est pas encore total. C'est qu'il y a de la place pour ces questions et pour la peur. C'est qu'il y a de la place pour que cette petite souris de crainte, elle vienne tapoter dans la boiserie. Des fois, elle est chou, hein, la petite souris, mais nous, en général, on les reçoit comme des trophées sur notre paillasson. Mais elle ne bouge plus. La voix de la peur, elle peut aussi prendre le dessus sur la voix de l'amour qu'on a à transmettre autour de soi. Et là, quand je parle, comme je le dis souvent, je me prêche d'abord à moi-même. Mais moi, je veux dire ce matin à Dieu, remplis tout mon être de ton amour. Je ne veux pas d'espace vide. Je ne veux pas que la peur, elle puisse venir m'empêcher non seulement de me sentir aimé, mais aussi d'aimer autour de moi. Seigneur, viens remplir ma vie par ton amour. Viens saturer mon être de ta présence. Viens faire déborder ma vie. Je suis impatient du temps de prière qu'on aura après pour libérer cet amour de Dieu encore d'une façon nouvelle, faire raviver cet amour. J'ai encore quelques pensées à vous partager. L'amour de Dieu, c'est tellement plus qu'un ressenti. Plus qu'un sentiment, c'est puissant. D'ailleurs, le verset « l'amour bannit la crainte », « l'amour chasse la crainte », ce mot « bannir, chasser », ça vient du grec « ballo », qui veut dire « jeter » ou « laisser tomber une chose sans se préoccuper d'où elle tombe ». C'est l'éparpiller, c'est la jeter. Et lorsqu'on est véritablement touché par l'amour de Dieu, on va jeter loin toute peur dans notre vie. La peur de se tromper, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur du regard des autres, la peur de décevoir, la peur du rejet. L'amour de Dieu, ce n'est pas juste un petit « pshhh » pour que la souris elle se taise un moment. C'est littéralement jeter au loin cette souris. Ce mot « ballot », je jette au loin cette souris. Désolé pour ceux qui sont dans la protection des animaux. C'est une image. Hein. Il ne faut pas tout prendre littéralement. Mais le passage entier de Jean avant ce verset, que l'amour chasse la peur, il est vraiment dingue avec la perspective qu'on a ce matin et de cette pensée. Je vais encore, on a bientôt terminé, mais je vais vous lire encore différents versets de 1 Jean, chapitre 4, où il est dit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas Dieu n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Dieu est amour, c'est vraiment sa nature, c'est qui il est. En Dieu, il n'y a que de l'amour, il n'y a pas de haine. Il n'y a qu'un amour total, véritable, sans condition. À l'inverse, dans le diable, il n'y a que de la haine. Il n'y a pas d'amour en lui. C'est pour ça qu'il ne peut pas l'imiter. Et moi, je pense que, ça, ce n'est pas la Bible, hein, c'est juste moi qui ai cette pensée, que chaque personne dans le monde qui aime d'une façon ou d'une autre, il manifeste, qui aime son conjoint, ses enfants, ses amis, il manifeste une facette de Dieu, de l'amour de Dieu. C'est parce que c'est sa nature, c'est qu'en lui qu'on trouve l'amour. Et de même, chaque personne qui n'aime pas véritablement ou qui n'aime pas, ou qui a de la peine avec telle personne, à l'aimer vraiment, c'est une facette de non-amour, et ce qui vient de la nature même de l'ennemi, qui a comme racine la haine. Et tout comme il ne peut pas y avoir de haine et de non-amour en Dieu, dans sa présence, dans son amour, c'est pour ça qu'il est mis à verset 8 de Parole de vie, « Ceux qui n'aiment pas ne connaissent pas Dieu. » Parce que si on connaît vraiment Dieu, qui est amour, on ne peut qu'aimer. Alors c'est pour ça que Jean, il y va fort quand même. Si tu n'aimes pas quelqu'un, c'est que tu ne connais pas vraiment Dieu totalement. C'est Jean qui le dit. C'est assez trash, mais c'est la Bible. Et la traduction Parole vivante dit carrément « Qui n'aime pas n'a rien compris de Dieu, car Dieu est amour. » Et Jean poursuit au verset 9 en nous disant « Comment connaître cet amour finalement de Dieu ?» Et il dit « Voici comment Dieu nous a montré son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Alors l'amour, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils, celui qui s'est offert en sacrifice pour nous. C'est pourquoi Dieu pardonne nos péchés. » Ça, c'est la démonstration d'un amour total. L'amour de Dieu est tel qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux, qui lui a coûté le plus. Et Jean poursuit au verset 11, « Bien-aimés, puisque Dieu a tant aimé, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. » Et si on réalise vraiment cet amour, on ne peut que nous aussi aimer autour. Parce que Jésus est mort en fait pour tous, on le sait. C'est-à-dire que Dieu a aimé chacun, l'un et l'autre. Pour chacun, il a donné ce qu'il avait de plus cher, son fils. Et s'il a donné son fils pour ton voisin, s'il a donné son fils pour ton collègue ou ce membre de ta famille, comment ne pas non plus aimer cette personne comme lui l'a aimé? Si on n'aime pas, c'est qu'on n'a pas vraiment réalisé que Jésus est mort pour cette personne aussi. Ne pas aimer ou ne pas transmettre cet amour carrément, c'est la même chose dans un sens, ou cet évangile à une personne, c'est laisser Jésus s'être sacrifié pour rien, pour elle, quelque part. Imagine, tu vas au magasin avec Dieu, tu fais la queue à la caisse, et là Dieu le Père te dit à l'oreille, tu sais, j'ai déjà payé toutes tes commissions, j'ai déjà tout payé, ce qu'il y a dans ton caddie. Ah, génial, tu diras si j'avais mis plus dedans. Non. Puis après il continue, puis il dit, tu sais, en fait j'ai payé pour tous les gens déjà dans le magasin, j'ai déjà payé pour tous les gens. Puis toi tu fais la queue avec Dieu à la caisse, puis tu vois la personne devant toi qui sort de son caddie, puis qui met plein de choses sur le tapis roulant, plein de choses. Puis le caissier ou la caissière qui dit le montant exorbitant. Si toi tu sais que ton papa a déjà tout payé aussi pour cette personne, tu ne peux pas t'empêcher de lui dire, hey, mon papa il a déjà payé, tu peux y aller, tu n'as pas besoin de payer. Si tu as vraiment réalisé qu'il a déjà payé aussi pour la personne de devant, pour l'autre, tu ne peux pas la laisser payer. Vous comprenez l'image? Dieu a déjà payé en sacrifiant son fils à tous ceux qui nous entourent, qui essayent de payer. Les gens, ils essayent de payer en faisant le bien, en suivant une religion, avec des devoirs, avec des rites, des choses à faire, en faisant le vide. Ils essayent de payer. Mais ce que Jean nous dit par ce passage, c'est « Hey, si tu as vraiment réalisé que Dieu a déjà payé sa vie pour tous, tu ne peux pas laisser les autres payer de leur vie. Si tu as vraiment réalisé qu'il a déjà payé, tu ne peux pas laisser l'autre payer. Tu dois lui dire que ça a déjà été payé. » Et Jean poursuit au verset 12, « Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. » Il est parfait en nous. Ça veut dire que même si on n'a pas vu Dieu en personne, ce qui doit être le cas pour nous ici, si on s'aime les uns les autres, c'est que Dieu est en nous et que son amour parfait est en nous. Et il poursuit ensuite en disant, « Comment est-ce qu'on peut savoir que Dieu est en nous ?» Et le verset 13 dit, « Mais voici comment nous reconnaissons que nous vivons en Dieu et que Dieu vit en nous. Il nous a donné son Saint-Esprit. » Et c'est le Saint-Esprit qui vient révéler l'amour de Dieu en nous. Et le verset 15, il est dit, « Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Or, nous avons connu l'amour de Dieu, que l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. » Et c'est là qu'on arrive à ce fameux verset qui dit que celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Ce verset qui dit « L'amour parfait bannit la crainte. » Et il continue juste. Mais je me suis dit, je ne vais pas lire tous ces versets, mais ils sont tellement justes. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. C'est tellement clair, c'est no comment, quoi. Il n'y a pas besoin de commenter grand-chose. Par contre, ce passage qui pique un peu, il est aussi tellement puissant. Parce que c'est mis que Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et il est mis au verset 17, « Dans cette communion avec lui, l'amour atteint en nous un plein épanouissement. » Et c'est quand tu es en Dieu, que tu demeures en Dieu, cet amour va trouver un plein épanouissement. C'est comme ce mot qui dit « Cet amour va devenir parfait. » Lorsqu'on demeure en Dieu, il va grandir. Et il n'y a plus de place pour le vide, il n'y a plus de place pour la peur. La peur, moi, de me sentir aimé ou de m'approcher de Dieu, de honte. Il n'y a plus de peur, de honte pour moi-même de venir devant Dieu, ni de peur et de honte de communiquer aussi Dieu aux autres. C'est un fondement de ma vie. Si je plante mes racines en Dieu, il va pousser naturellement le fruit de la nature. Alors que l'arbre que je suis est en Dieu, il va pousser du fruit de son amour. Si j'ai mes racines en Dieu, et si je réalise, et je le réalise moi-même en prêchant, que je n'ai pas encore assez d'amour. Alors le but ce matin, ce n'est pas de vous dire « aimez plus », puis tac, je rajoute une couche de plus à vos résolutions de début d'année, ce n'est pas ça. Mais c'est en plongeant ses racines en lui, en demeurant en lui, le fruit vient naturellement. La sève va amener la vie à tout ton être, comme le dit le texte, et cet amour va s'épanouir, il va être total. Je vais porter du fruit, je ne peux pas aimer par moi-même. Le véritable amour, il vient de Dieu. Et ce matin, le passage, ce n'est pas juste pour mettre un poids sur nous, mais c'est pour qu'on puisse se laisser toucher et bouleverser par celui qui est amour et par sa présence. Et Jean 4 nous le dit, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. On ne peut pas porter du fruit par nous-mêmes, on ne peut pas aimer quelque part par moi-même, par soi-même. Celui qui demeure en moi, le verset 5, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Plus tu plonges tes racines en Dieu, plus l'amour de Dieu va prendre de la place et moins il y aura de place pour la peur, pour d'autres choses. Et plus tu vas aimer les autres et tu vas porter beaucoup de fruits. Et moi, je suis convaincu que Dieu ne veut pas juste qu'on porte du fruit, mais qu'on porte beaucoup de fruits, pour que les gens, quand ils regardent notre arbre qui ploie sous le fruit, ils disent « Waouh, ben celui-là, cette saison, il en porte du fruit. » Et puis que les gens se demandent « Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ?» Comme ce texte, cette pensée qu'a lu Shelley avant, moi je crois que c'est une pensée, Dieu désire qu'on manifeste du fruit en abondance. Et pour ça, il suffit de plonger vraiment nos racines dans sa présence, dans son amour. Et je sens que Dieu désire que les gens qui nous entourent dans cette région réalisent vraiment que Dieu les aime. Que Dieu n'est pas là pour les juger, que Dieu n'est pas là pour dire ce qu'ils font faux, mais qu'il est là pour les aimer et qu'ils sachent qu'il y a déjà quelqu'un qui a payé à la caisse. Pour qu'ils sachent, et pour qu'ils le sachent, il a juste besoin. Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui plongent leurs racines dans la présence de Dieu, dans cette présence qui est amour, pour ne plus laisser de la place à cette petite souris de la peur pour venir ronger. Qui laisse la place à l'appréhension et puis qui nous empêche de dire aux gens qu'il y a quelqu'un qui a déjà tout payé. Et Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont empêcher que Jésus ait payé pour rien, que Jésus soit mort pour rien, pour les gens qui nous entourent. Et j'invite le groupe de musique à venir, on va bientôt terminer. Parfois, on aimerait tellement la baguette magique. Enfin, des guérisons, des miracles, mais si les gens voyaient que les gens sont guéris, les gens ils pourraient que croire en Dieu. Si je prie pour mon voisin et qu'il est guéri instantanément, les gens ne pourraient que croire en Dieu. On aimerait tellement voir plus de signes et de prodiges. Amen, et je le veux. Mais c'est l'amour qui va être déclencheur d'un réveil. C'est l'amour qui va être déclencheur d'un réveil. Dans Matthieu 14, il est mis que Jésus il sort de la barque et il a vu une grande foule. Il n'est pas juste directement allé guérir les gens. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été saisi de compassion. Il a aimé les gens et du coup, il les a guéris. L'amour a été tellement fort que ça a libéré la guérison. L'amour est tellement fort que ça libère la vie, le témoignage, que ça libère l'amour qui coule. C'est toujours l'amour qui fait manifester la puissance, comme la fille de Jaïrus. Ce n'est pas l'attente des gens. Elle était mourante et finalement elle en est même morte. Ce n'est pas la pression des gens qui voulaient enfin voir du surnaturel. Ce n'était pas la pression des gens pour qu'elle soit guérie. Mais c'est l'amour de Jésus pour elle, pour cette famille qui a été le carburant du miracle. Et qui a fait que Jésus s'est déplacé jusque vers elle pour la ramener à la vie. Et finalement, la seule raison qui a amené Jésus à aller jusqu'au bout, à la croix, qui lui a permis de tenir, de supporter les coups, de porter cette croix en montant la colline, et puis pas d'abandonner juste au dernier kilomètre, c'était pas de réussir sa mission sur terre, puis de pouvoir dire au Père, j'ai réussi. C'est à cause de son amour pour toi, de son amour pour nous, qu'il est allé jusqu'au bout. Et l'amour est ce qui va t'amener hors de ta zone et qui va te faire expérimenter ce que Jésus vivait au quotidien. Vivre le service au quotidien, vivre le naturel naturellement, surnaturellement, vivre le surnaturel naturellement. Et si l'amour est ton naturel, je suis convaincu que tu vas vivre le surnaturel. Tu peux laisser le message, tu peux remettre encore 2-3 slides. Si l'amour est ton naturel, tu vas pouvoir vivre le surnaturel. L'amour et la compassion, c'est la sève qui va manifester des fruits et des guérisons et des conversions. je suis convaincu. La Bible nous dit qu'au temps de la fin, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et moi, je réalise qu'il y a plus. Et je n'ai pas envie d'être de ceux dont l'amour, finalement, avec le temps, y perd de sa passion. Si tu as une cheminée chez toi, puis tu vois que le feu, il est moins fort qu'avant, tu rajoutes du bois, et on a déjà parlé de ça, mais tu rajoutes le bois, et le bois, c'est « Seigneur, moi, je me donne à toi ». Le bois, c'est quand nous, on s'offre à Dieu sur ce sacrifice. Nous, on s'offre au Seigneur. Mais si on voit que le feu manque, on va demander à ce Saint-Esprit de venir raviver le feu, de souffler. Et tu peux faire repartir. Sûrement que vous avez déjà fait ça dans la nature ou chez vous, où vous soufflez. Et puis ces braises qui étaient là, semblaient dormir, ou le feu mourant, il peut repartir. Et moi, je vais prier pour que le vent et le vent du Saint-Esprit y viennent sur les braises de ton cœur, et qu'un feu nouveau, une passion, où tu réalises l'amour de Dieu pour toi, qui est imparfait, ça va libérer cet amour pour ta vie. Tu vas t'aimer toi-même comme tu es, et tu vas pouvoir aimer les gens. Et c'est ce que Dieu désire faire. C'est comme ça qu'on va avoir un impact. Et Dieu désire qu'on puisse aligner nos cœurs entiers sur le sien. Et moi, ce que je crois, c'est que vraiment, ce que Dieu veut nous amener, c'est de vivre la puissance de l'amour et pas juste l'amour de la puissance. Et souvent, on veut vivre des choses, on veut vivre l'amour de la puissance. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'on expérimente la puissance de l'amour. Et en vivant la puissance de l'amour, les choses vont se manifester, les fruits sont manifestes. L'arbre, il ne va pas rester sans fruits. Et des fruits pour moi, c'est des gens qui se tournent vers le Seigneur, c'est des gens qui sont guéris, c'est des gens qui sont délivrés, c'est des vies qui sont transformées, c'est des guérisons intérieures, c'est des familles qui sont transformées, c'est des réponses aux prières. Et ça se passe quand on plonge nos racines. Et Saint-Esprit, je te prie ce matin, je vous propose qu'on se lève, on va prendre ce chant, mais je vais prier, peut-être je prierai encore après ce chant. Mais Saint-Esprit, je te prie de venir ce matin. Parce que ce que tu désires, Seigneur, c'est pas de nous dire « Hey, aime plus !» Mais tu veux souffler sur les braises pour que l'amour qu'il y a dans nos vies prenne. Et je prie, Saint-Esprit, viens, souffle. Souffle, Seigneur, sur nos cœurs. Souffle, Seigneur, sur chacun de nous. Et que cette passion, cet amour pour toi brûle encore plus. Et je veux libérer au nom de Jésus la révélation d'un amour inconditionnel, sans condition. Un amour qui coule sur tes imperfections, qui va les transformer, mais qui coule déjà sur tes imperfections. Et que cet amour puisse couler sur ta vie, tu puisses apprendre à t'aimer. Et si tu t'aimes toi-même, tu vas être à l'aise dans tes baskets et tu vas pouvoir aimer les autres sans peur. Parce qu'un amour total, il n'y a plus de place pour la souris, il n'y a plus de place pour la peur. Saint-Esprit, je te prie de libérer cette révélation de ton amour. Viens, souffle, souffle, souffle. Je vais prier encore après, mais qu'on puisse prendre ce chant où on vient comme amener le bois dans ce feu, on dit viens. Viens, viens, viens Seigneur, viens par ton amour, viens par ta vie. Alléluia, alléluia, à toi, on ouvre nos cœurs tout à nouveau Seigneur, pour être touché par ton amour, ému par ton amour. Et Seigneur, on veut ouvrir nos cœurs ce matin. Seigneur, moi je veux ouvrir mon cœur entier pour l'aligner sous ce robinet d'onction, sous ce robinet de ton amour. Et Seigneur, je veux pas être en partie, te suivre en partie. Et finalement, j'ai qu'une partie qui coule sur moi. J'ai envie de me donner entièrement à toi et de m'aligner sous ton amour, de m'aligner, Seigneur, sous ton onction. Alléluia. Seigneur, on ouvre nos cœurs ce matin. On ouvre nos cœurs ce matin. Alléluia. Peut-être qu'une façon de répondre à ce message, si tu sens vraiment que ça te parle, tu puisses simplement peut-être ouvrir tes mains, ouvrir tes bras. Puis dis, Seigneur, j'ouvre mon cœur tout à nouveau. J'ouvre mon cœur tout à nouveau à toi. Et Saint-Esprit, je te prie de venir souffler maintenant. Viens souffler sur les braises. Viens renouveler la passion. Viens renouveler l'amour. Viens, Seigneur, faire monter un amour puissant qui vient d'une révélation de ton amour. Viens saisir nos cœurs, Seigneur. On ne veut pas de la religion, on ne veut pas de la loi. On veut cette relation, on veut être amoureux de ce bien-aimé. On veut être épris par ton amour. Viens, souffle, Saint-Esprit, et ranime nos cœurs. Ranime nos cœurs. Révèle, libère, révèle cet amour qui vient de toi. Et fais monter un amour nouveau pour toi. Une passion nouvelle pour ta parole. Une passion nouvelle pour ta présence. Une passion nouvelle pour l'intimité et plonger mes racines en toi. Afin que ça déborde. Que ça déborde. Seigneur, qu'on puisse aimer les autres tellement tu les aimes. Viens, Seigneur, libère cet amour. Souffle, Saint-Esprit. Souffle, Saint-Esprit. Alléluia. Et j'aimerais comme déclarer que ce n'est pas juste un moment fort après un message, mais que c'est quelque chose que Dieu ouvre sur nos vies, ouvre sur cette église, où l'amour de Dieu va se manifester puissamment. À ceux-ci, ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres, à l'amour qu'il y a dans cette pièce, à l'amour qu'il y a dans nos groupes, à l'amour qu'il y a dans nos vies. À ceux-ci, les gens vont goûter un fruit et vont réaliser que Dieu est vivant. Et cette puissance de l'amour, cet amour va amener la puissance. Et nous nous réjouissons, Seigneur, et nous saisissons cette parole de voir des fruits puissants. En vivant cet amour naturellement, nous allons vivre aussi le surnaturel. Mais on veut se laisser être épris, se laisser être épris par ton amour. Souffle, Seigneur. Souffle dans les cœurs ce matin. Alléluia.
Waouh, merci Seigneur pour ce temps. Merci David aussi pour ce précieux message. Et hier, j'ai reçu une parole pour ma propre vie. Et puis, en fait, quelqu'un m'a posé la question, m'a dit, « Ok, mais Shelley, est-ce que tu crois ? Est-ce que tu y crois ? Est-ce que tu as reçu cette parole ?» Et en fait, après, ça m'a complètement bouleversée. Et en fait, j'ai réalisé que ce que j'avais reçu, la parole de Dieu que j'avais reçue, elle était restée au niveau cérébral. Et je prie vraiment que, suite à ce message, toutes ces vérités, ça puisse vraiment descendre dans nos cœurs, ça puisse être des révélations. Et puis qu'après ces révélations, elles puissent comme couler dans notre corps et qu'elles puissent aussi nous transformer et nous pousser à l'action et nous inspirer dans nos agissements. Et je prie vraiment qu'on puisse laisser vraiment toutes ces vérités qui ont été partagées ce matin vraiment venir nous toucher dans notre cœur et qu'on puisse se laisser complètement transformer et bouleverser.